Je m'empresse de prendre la parole, car je vois qu'Anna va riposter violemment à cette accusation de la part de son mari. Mario, tu parles d'hommes en manque de sexe. Est-ce que tu mentionnes ce fait parce que cela t'arrive ? Il rougit un peu, regarde Anna et me répond en prenant une grande respiration.
Tant qu'à être ici, aussi bien être honnête jusqu'au bout, hein ? Eh bien oui, je suis souvent en manque. Pour dire vrai, je ne me suis pas sentie très bien ces derniers temps et je n'ai pas envie de grand-chose, y compris le sexe. Par contre, je sens que je suis en manque. Parfois, le jour, j'imagine faire l'amour comme nous en avions l'habitude auparavant. Mais quand arrive le soir, je suis vidée de toute mon énergie. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je manque d'énergie aussi souvent, Lise ?
Nous reparlerons de ton énergie à un autre moment. Revenons à notre sujet, veux-tu ? Tu me dis que tu manques de sexe et que tu y penses avec désir dans la journée. À ce moment-là, quand tu vois une belle adolescente se pavaner devant toi, habillée de façon très sexy, est-ce que tu as envie de lui sauter dessus ?
Mais non, je n'y pense même pas. Je la trouve belle et sexy, mais c'est tout. Je ne penserai jamais aller plus loin que ça.
Alors pourquoi crois-tu que les autres hommes en manque de sexe ne sont pas comme toi ? Bien sûr, il y a et il y aura toujours des hommes immatures sexuellement qui ne pensent qu'à faire l'amour avec des jeunes filles et, pour certains d'entre eux, avec de jeunes garçons. La plupart peuvent se contenir, mais d'autres n'y arrivent pas et finissent par agresser quelqu'un, comme l'homme dont tu as parlé un peu plus tôt, Anna. Celui qui a abusé de ton amie Nicole. Ceux qui n'arrivent pas à se maîtriser, c'est parce que eux-mêmes ont été abusés dans leur jeunesse et qu'ils en veulent encore à leur agresseur. Plus quelqu'un se dit qu'il ne deviendra jamais comme une certaine personne qu'il accuse ou juge, plus il s'assure de devenir un jour comme cette personne. Cela fait partie de la loi de la manifestation. Plus nous canalisons de l'énergie sur une pensée, plus nous développons un sentiment très fort lié à cette pensée, et plus cette pensée se manifeste. Cette loi est merveilleuse lorsque nous l'utilisons pour créer ce que nous désirons. Donc, pour revenir à Sandra, est-ce que tu réalises, Anna, que tu as attiré dans ta vie de maman une jeune fille qui s'habille de façon sexy justement pour t'aider à faire ton processus d'acceptation avec ta mère qui entretenait les mêmes peurs que toi face à la sexualité ?
Es-tu toi aussi en train de me dire que c'est de ma faute si ma fille agit ainsi ? Oh, je m'excuse, Lise. C'est mon ego qui prend le dessus. Au moins, j'ai été capable de m'en rendre compte assez vite aujourd'hui. Je sais qu'être responsable, c'est accepter le fait que nous attirons certains comportements et attitudes de la part de nos proches pour nous aider à prendre conscience d'une chose que nous devons régler. J'ai relu le chapitre sur la responsabilité il y a quelques jours et je me disais justement que cette notion est difficile à accepter. Je viens de comprendre, comme tu l'expliques, que si nous n'acceptons pas notre responsabilité, nous nous sentons coupables. C'est ce qui vient de m'arriver. Je me suis sentie accusée par Mario et toi quand vous disiez que l'attitude de Sandra avait un rapport avec moi. Bon, je suis d'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant ?
Je te disais un peu plus tôt que tu dois faire ton processus d'acceptation avec ta mère, suite à l'attitude qu'elle a eue avec toi par peur que tu tombes enceinte et qu'on te traite de putain. De quoi l'as-tu accusée ?
Encore une fois, d'être injuste, de ne pas me comprendre, mais surtout de ne pas m'écouter. C'était comme si elle me disait que j'étais une putain comme mon amie. Elle ne me faisait plus confiance.
Eh bien voilà. Tu sais maintenant ce que tu as à faire. Le jour où tu pourras sentir que ta mère agissait ainsi par amour pour toi, au même titre que tu t'inquiètes pour ta fille par amour pour elle, tu retrouveras la paix intérieure. Nous avons vu jusqu'à maintenant la peur que tu entretiens envers Sandra, ainsi que la vraie peur pour toi dans cette situation. Tu as peur que ta fille tombe enceinte et que tu aies à en subir les conséquences. Et toi, Mario, tu as peur que Sandra se fasse agresser sexuellement. Cependant, je n'ai pas su de quoi tu as peur pour toi si ça arrivait à ta fille. Le sais-tu ?
Je n'ai pas peur pour elle, mais pour moi.
D'accord. Ce qui me vient à l'esprit,
c'est que je serais tellement en colère que je voudrais venger ma fille et que je pourrais devenir très violent si je trouvais son agresseur. Je ne sais pas si je pourrais me contrôler. Je te suggère alors de tenter de trouver d'où vient cette violence en toi qui te fait peur. Sache qu'elle représente quelque chose que tu n'as pas accepté dans ton enfance ou ton adolescence. Si tu veux en parler lors d'une autre rencontre, sens-toi bien à l'aise. Pour le moment, je veux revenir au problème vécu avec Sandra. Souvenez-vous que le vrai problème dans toute situation, c'est la peur que celle-ci éveille pour vous. Maintenant que nous l'avons cernée, que voulez-vous dans cette situation? Anna répond aussitôt. C'est simple, que Sandra ne tombe pas enceinte, qu'elle soit donc moins sexy, ça réglerait tout. Tu me fais rire, Anna, car c'est souvent le genre de réponse que j'entends. Réalises-tu à quel point ce que tu veux dépend de ta fille? Un « je veux » doit toujours dépendre de soi. Je vais t'aider un peu. Veux-tu être capable de te sentir bien même si le pire arrive? Veux-tu pouvoir gérer cette situation avec ta fille comme si elle était une bonne amie? Ou bien veux-tu apprendre à travailler sur les solutions plutôt que sur le problème? Je veux tout ça. Mais je veux surtout être capable de me sentir bien et cesser de m'inquiéter à son sujet. Je veux avoir l'assurance que, s'il arrive quoi que ce soit, je serai en mesure d'y faire face. Bravo. Tu sais, il est très important de savoir ce que tu veux. Autrement, comment peux-tu y arriver? Si tu entres dans un restaurant et que tu ne sais pas ce que tu veux manger, crois-tu que tu mangeras? Tu n'auras rien, n'est-ce pas? C'est ainsi dans tous les domaines. Le plus important est de te souvenir que toutes les expériences que tu vis grâce à ta fille t'aident à compléter tes propres processus. Elle n'est pas dans ta vie pour te faire souffrir. Je te suggère donc de raconter à Sandra ce qui est arrivé à ton amie Nicole, ce que tu as vécu à 15 ans et surtout de lui dire comment tu te sentais quand ta mère te surveillait et quand tu as été accusée d'avoir une mauvaise influence sur ton amie. Parle-lui des accusations que tu as portées contre toutes les personnes impliquées dans cette histoire. Il serait bon de te préparer à cette conversation en mettant tout par écrit auparavant. Explique-lui que c'est pour cette raison que tu agis ainsi avec elle et qu'il est difficile pour toi d'accepter son choix de vêtements. Ensuite, demande-lui si elle vit les mêmes émotions que toi, si elle a les mêmes peurs et porte les mêmes accusations envers toi. Souviens-toi que nous vivons les mêmes choses d'une génération à l'autre. Les expériences de la vie se répètent avec les personnes du même sexe. Par exemple, si tu as accusé ton père de quelque chose, quelqu'un d'autre de sexe masculin t'accusera pour la même raison. Dans ton cas, ta mère a eu peur que tu tombes enceinte comme ton amie Nicole, qu'elle accusait d'avoir des manières de putain. Tu l'as accusée d'être injuste, de ne pas te faire confiance, de ne pas te comprendre et surtout, de ne pas t'écouter. Voilà pourquoi ta fille te fait revivre la même expérience que celle que tu as fait vivre à ta mère. Ce sera intéressant de découvrir dans quelles circonstances elle t'accuse de la même chose. Et si Sandra ne veut pas en parler? Pour commencer, tu lui dis tout simplement que tu veux lui raconter quelque chose qui t'est arrivé lorsque tu étais adolescente. Je peux t'assurer que, si elle ne se sent pas accusée au cours de votre échange, elle aura envie de continuer à t'écouter. Si elle se sent accusée, elle arrêtera net la conversation. Le but de cet échange est justement de t'aider à vérifier ce que tu acceptes ou pas. Après avoir partagé ce dont tu accusais ta mère, il sera plus facile pour toi de vérifier à quel moment elle te juge ou t'accuse de la même chose. Si tu acceptes d'avoir accusé ta mère, elle le sentira et te parlera facilement de ce qu'elle vit avec toi. L'objectif final ne doit pas être que Sandra change sa façon de s'habiller. Elle seule peut décider de changer. C'est sa vie et les conséquences lui appartiennent. Justement, à propos des conséquences, supposons qu'elle ne veuille pas changer et qu'elle tombe enceinte. C'est Mario et moi qui devrons en assumer les conséquences, non? C'est ça ma plus grande peur. Quand tu auras fini de lui raconter tout ce dont nous venons de parler, ce serait une bonne idée de lui dire que tu préférerais qu'elle soit moins provocante, que cela t'aiderait à apprivoiser tes craintes, mais que ce n'est pas à elle de subir les conséquences de tes peurs. Si elle choisit de s'habiller différemment, elle doit le faire pour te faire plaisir et de son plein gré. Demande-lui comment elle pourrait faire face aux conséquences si un jour elle tombait enceinte comme tu le crains, et pas nécessairement à cause d'une agression. Prenez ensemble le temps d'énumérer toutes les conséquences possibles, de les noter et de voir comment vous pourriez gérer chacune d'elles, surtout les plus difficiles. Est-ce que Mario devrait faire partie de cette conversation? Il s'empresse de répondre avant que j'aie le temps d'ouvrir la bouche.
Ah non, il n'est pas question que je me mêle de ça. Tu sais bien qu'elle sera bien trop mal à l'aise de parler de ces choses-là devant moi. Ce sont des affaires de femmes, ne trouves-tu pas?
Ajoute-t-il en me regardant. Il est vrai que ce sont des affaires de femmes, mais si tu apprenais que ta fille est enceinte, ça deviendrait aussi ton affaire. Je suis sûre que tu ne resterais pas indifférent. Cependant, je suis d'accord pour que tu ne sois pas présent lors de cet échange entre Anna et Sandra. Ta peur que ta fille soit mal à l'aise indique que tu serais toi-même mal à l'aise de parler de ces choses avec elle et qu'elle pourrait en être affectée. Que penses-tu par contre d'être présent lors de la rédaction de la liste des conséquences? En tant qu'homme et père, tu penserais certainement à des choses différentes. Je te suggère d'y réfléchir et si tu préfères en parler seul à seul avec ta fille une fois que tu auras vu comment tout s'est déroulé avec Anna, rien ne t'en empêche. Ce serait une bonne occasion de lui faire part de tes peurs à son sujet et comment tu vivrais le fait qu'elle tombe enceinte. À propos de ta peur qu'elle soit agressée sexuellement, ainsi que ta peur de devenir violent, je te suggère d'y réfléchir d'ici notre prochaine rencontre et de tenter de découvrir d'où elle provient. Puisque nous nous reverrons dans 2 semaines, Anna, tu auras le temps d'avoir cette conversation avec ta fille. Je vois dans tes yeux que tu doutes que ça se passe bien. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu sais aussi bien que moi que rien ne changera à la situation actuelle. Es-tu prête à y faire face? Elle a les larmes aux yeux. Elle regarde Mario qui lui prend la main d'une façon rassurante et elle me fait signe de la tête pour me montrer qu'elle le fera.
Et toi, Mario, tu m'as confié que tu vivais quelque chose de difficile avec ton fils. Veux-tu en parler tout de suite?
Oui. Merci, Lise.
Ce que je vis avec David m'empêche de dormir la nuit. Je ne comprends pas pourquoi ça me touche autant. Le problème, c'est que je lui ai payé des études en comptabilité. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. À la fin de sa formation, David s'est tout de suite trouvé un emploi dans une grande firme et j'en fus très heureux. Mon père ne m'a jamais payé d'études universitaires et je m'étais bien promis que mon fils serait plus instruit que moi. C'est pour ça que j'étais si heureux. J'avais atteint mon but avec lui et je me disais que mon rôle de père était terminé, que David était un adulte, avait une profession stable et payante et que désormais la vie serait plus agréable. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas? Un an plus tard, il a décidé qu'il n'aimait pas cette profession et il a quitté son emploi sans même savoir ce qu'il ferait à la place. Son petit garçon avait à peine 1 an et sa femme était retournée sur le marché du travail. Il ne m'a même pas informé de sa décision. Je l'ai appris d'un de ses collègues lorsque j'ai téléphoné à son bureau pour lui parler. Peux-tu imaginer ce que j'ai ressenti en me faisant dire par un étranger que mon fils ne travaillait plus là depuis 2 mois? Je ne le croyais pas, et j'ai même insisté pour que ce jeune homme vérifie à nouveau. Je me disais que ça devait être un nouvel employé, qu'il ne connaissait pas tout le monde dans l'entreprise. Il me répondit alors d'un ton sec, « Monsieur, je n'ai pas besoin d'aller vérifier, je connais très bien David, et vous pouvez me croire, c'est lui-même qui a donné sa démission. Il était de plus en plus malheureux ici. Ce n'est pas un domaine qui lui convenait, c'est tout. » Je suis restée en état de choc pendant 2 jours. J'ai finalement appelé mon fils et lui ai demandé si tout était vrai. Il m'a répondu que oui, en ajoutant qu'il n'avait pas osé m'en parler de peur de me faire de la peine. Je ne comprends pas que tu ne te sois pas rendu compte que tu n'aimais pas la comptabilité pendant tes études. Réalises-tu tout le temps que tu as investi pour devenir comptable et tout l'argent que j'ai dû débourser pour toi? lui ai-je dit en colère.
Heureusement, il n'était pas à côté de moi, car je ne sais pas ce que je lui aurais fait. Il m'a assuré qu'il était désolé, mais que travailler dans une firme comptable, le nez dans les chiffres à longueur de journée, n'était pas du tout comme aller à l'université. De toute façon, vu l'état dans lequel j'étais, il ne voulait pas me parler davantage. Il m'a demandé de me calmer et m'a promis qu'il viendrait me voir 2 jours plus tard pour en discuter. J'ai bien écouté son histoire et je sentais qu'il était lui aussi très malheureux de cette situation. Ce que je raconte s'est passé il y a 4 ans. Sais-tu, Lise, quel travail il fait maintenant? Il est serveur dans un restaurant. Il dit qu'il est heureux, qu'il aime bien son patron et ses collègues de travail et qu'il gagne un bon salaire. Il m'a dit « Papa, pourquoi ne peux-tu pas accepter le fait que c'est ce métier que je veux exercer pour le moment ? Je travaille les jeudis, vendredis et samedis et je gagne assez d'argent pour que nous vivions bien. C'est un restaurant bien coté et je reçois de bons pourboires. Ce travail me permet de passer beaucoup de temps avec Nicolas et j'économise sur les frais de garde. De plus, Michel est d'accord avec mes choix. Pourquoi ne peux-tu pas être heureux si je te dis que je le suis ? Je sais qu'il a raison. Je devrais être heureux s'il l'est, mais j'en suis incapable. Quand quelqu'un me demande ce que fait mon fils, je ne peux même pas me résoudre à dire qu'il est serveur. Je réponds qu'il est comptable et je change de sujet. Pourquoi choisir ce métier ? Selon moi, n'importe quel idiot pourrait faire ce travail. C'est dégradant. Pour tout avouer, j'en ai honte. On se voit de moins en moins souvent, car à chaque rencontre, je ne peux pas m'empêcher de lui demander s'il a trouvé quelle profession il veut faire dans le futur. La dernière fois que je l'ai vu, il y a 2 semaines, il m'a dit « Ça suffit, papa. Plus tu m'en parles et moins j'ai envie de changer de travail. Quand vas-tu me fiche la paix avec ça ? Tu fais bien le métier que tu veux et je ne t'en parle pas. Si tu abordes ce sujet une autre fois, je te jure que je ne te reverrai plus. C'est la dernière fois que tu m'en parles, d'accord ? Si jamais je décide de faire carrière dans un autre domaine, c'est moi qui te l'annoncerai. Est-ce clair, une fois pour toutes ? Comment puis-je arriver à accepter sa décision ? J'ai beau me répéter des centaines de fois que je devrais oublier tout ça, je n'y arrive pas. Ce que j'entends, c'est que tu as fait de grands sacrifices pour payer les études de ton fils, et il choisit d'exercer un autre métier. Il y a plus d'une chose qui semble te déranger. Le fait d'avoir déboursé autant d'argent pour rien, le fait qu'il ne soit pas un professionnel, comme tu l'as toujours rêvé, le fait qu'il ait choisi un métier dégradant et honteux, selon toi, et le fait qu'il ait pris sa décision, sachant fort bien que ça te déplairait. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans ce que je viens d'énoncer ?
Tout me dérange.
Si tu évaluais sur une échelle de 1 à 10 l'importance du problème pour toi, lequel serait le plus élevé ? Dis-moi le premier chiffre qui te vient spontanément à l'esprit à mesure que je répète tout ce qui semble te déranger.
Je suis désolée de réfléchir si longuement, mais je ne suis pas habituée à me poser ce genre de questions. Je crois que ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'il ne soit pas un professionnel et qu'il exerce un métier qui ne demande aucune étude.
Comment te sens-tu avec ce problème ?
Je sens que j'ai raté mon coup en tant que père. J'ai sûrement échoué quelque part pour qu'il ait si peu d'ambition. Pourtant, je lui ai tellement répété qu'il est important pour un homme de faire des études et de se préparer une belle carrière pour l'avenir.
Je vais te poser la même question que celle que j'ai posée à Anna plus tôt. Maintenant que nous savons quel est le vrai problème dans cette situation, que veux-tu pour toi ?
Je vais te donner la même réponse qu'Anna. Je veux être capable de me sentir bien, même si mon fils reste serveur toute sa vie, et je veux cesser d'avoir honte de lui. Je veux aussi savoir d'où vient cette difficulté à accepter cette situation. Par quoi je commence ?
Tu es au courant que je travaille beaucoup avec les blessures de l'âme, n'est-ce pas ?
Oui. Oui, Anna m'en a longuement parlé quand elle a suivi cet atelier. Depuis sa première visite avec toi, il y a quelques semaines, elle a relu le livre sur les blessures pour bien se remémorer toutes ces notions et suite à la deuxième rencontre, j'ai, moi aussi, décidé de le lire. Je dois t'avouer que je vais devoir le lire à nouveau, car je me reconnais dans toutes les blessures.
Est-ce normal ?
Ajoute-t-il en riant.
Oui,
J'entends souvent cette remarque. Tu sais, l'ego a beaucoup de difficultés à capter les différences entre les blessures. Toute recherche sur soi est très dérangeante pour l'ego. C'est tout à fait normal d'être confus au début. Alors dis-moi, cette situation avec ton fils éveille-t-elle ta blessure de rejet ou d'injustice?
Je croyais que c'était de l'humiliation, car j'ai honte de lui.
Ton corps me dit que tu ne souffres pas de la blessure d'humiliation. D'ailleurs, quand tu reliras le livre, tu remarqueras que cette blessure est beaucoup plus associée à tout ce qui concerne les cinq sens physiques. De plus, il est bien dit dans le livre que les blessures de rejet et d'injustice sont éveillées par le parent du même sexe que l'enfant. C'est la raison pour laquelle je n'ai mentionné que ces deux blessures. Donc, laquelle de ces blessures te concerne selon toi?
Je me sens rejetée par mon fils quand il ne veut pas écouter mes conseils et quand je sens qu'il ne veut pas être comme moi. Il me l'a dit d'ailleurs plusieurs fois. Je trouve injuste le fait qu'il ait mis aussi longtemps à réaliser qu'il n'aimait pas le métier de comptable. Il aurait pu m'offrir de me rembourser une partie des frais de ses études, que j'ai tout compte fait payer pour rien. Il vient d'acheter une belle auto qui vaut très cher, donc je sais qu'il est à l'aise financièrement. D'ailleurs, je trouve que sa femme et lui semblent vivre beaucoup trop au-dessus de leurs moyens. J'espère qu'il n'est pas en train de s'endetter et que je devrais le dépanner un jour. Je n'ose pas lui en parler. Il y a assez de son métier qui me dérange.
Alors, Mario, le vrai problème, celui sur lequel tu dois travailler, n'est pas le fait qu'il soit serveur au lieu de comptable, mais bien le rejet et l'injustice que tu ressens. Te souviens-tu que nous avons dit, un peu plus tôt, que lorsque nous accusons quelqu'un de quelque chose, cette personne nous accuse de la même chose? Cela veut dire que ton fils t'accuse de le rejeter et d'être injuste à son égard et qu'en plus, tu as accusé ton père de te rejeter et d'être injuste envers toi. Es-tu prêt à ce que nous allions plus loin sur ce sujet?
Moi, je n'aurais jamais osé parler à mon père comme mon fils me parle. En plus, si j'avais imposé à mon père ce que David m'a fait, j'aurais offert de rembourser à mon père au moins la moitié de ce qu'il aurait dépensé pour moi. Ce serait plus juste.
Es-tu sûr que tu n'as jamais trouvé ton père injuste ou que tu ne t'es jamais senti rejeté par lui? Parle-moi de ton père. Dans le questionnaire que tu as rempli, tu mentionnes qu'il est décédé alors que tu avais 14 ans. Comment était-il avec toi, surtout au moment de ton adolescence?